5. Le centre de Stantonville se limitait à une rue unique bordée de quelques boutiques ringardes, de deux ou trois bars et d'une cafétéria, le genre qui servait des petits déjeuners toute la journée, accompagné de mauvais café à volonté. Certains commerces étaient fermés et même murés. Des pancartes indiquaient qu'ils étaient à louer ou à vendre. Mon père disait que Stantonville avait été une petite communauté prospère, un lieu de shopping très agréable pour les gens qui ne voulaient pas aller jusqu'à Elgin, Naperville, Joliet, ou encore plus loin, Chicago. Puis, en 1970, le centre commercial avait ouvert ses portes. Un méga centre commercial, avec un multiplex de 12 salles, un parc d'attractions pour les enfants, un mur d'escalade, une zone de trampoline baptisée « Flyers », un escape game et des types qui déambulaient déguisés en singes savants. Ce temple scintillant de la consommation se trouvait au nord de Stantonville. Il avait éradiqué presque toute forme de vie dans le centre. Et les rescapés avaient été aspirés par le Walmart et le Sam's Club installés au sud, à la sortie de l'autoroute. Me déplaçant à vélo, j'étais obligé d'éviter l'autoroute et de prendre la 74A, une route à deux voies qui longeait des fermes et des champs de maïs. Ça sentait le fumier et la verdure. En cette belle matinée de printemps, le trajet aurait été agréable si je n'avais pas transporté une petite fortune sur mon dos. Je me souviens d'avoir pensé à Jack, le garçon qui avait escaladé le haricot magique. À 9h15, je pénétrais dans la rue principale de Stantonville. Comme j'étais en avance, je m'arrêtais à la cafétéria et commandais un coca que je sirotais assis sur un banc sur une petite place sale qui accueillait une fontaine asséchée remplie de détritus et la statue maculée de fiente d'un personnage dont je n'avais jamais entendu parler. Plus tard, je repenserai à cette place et à cette fontaine asséchée dans un endroit encore plus désert que Stantonville. Je ne jurerais pas que Christopher Paulet était présent ce matin-là, mais je ne jurerais pas le contraire. Paulet faisait partie de ces gars capables de se fondre dans le paysage jusqu'à ce qu'il soit prêt à se montrer. Il aurait pu être au diner, en train d'avaler des œufs au bacon. Il aurait pu se trouver sous l'abribus ou en train de faire semblant d'examiner les guitares et les énormes ghetto blasters dans la vitrine du prêteur sur gage. Ou bien, il aurait pu être nulle part. Tout ce que je peux dire, c'est que je ne me souviens pas d'avoir vu un type coiffé d'une casquette rétro des White Sox avec le rond rouge sur le devant. Peut-être qu'il ne la portait pas ce jour-là, mais je n'ai jamais vu ce salopard sans sa casquette. À 10h20, je jetai mon gobelet de coca encore à moitié plein dans une poubelle et descendis Main Street en pédalant lentement. Le quartier commerçant, si on peut l'appeler ainsi, s'étendait sur 4 pâtés de maison seulement. À sa périphérie, à un jet de pierre d'un panneau annonçant « Merci d'avoir visité notre belle ville », j'avisai la boutique « Excellent Jewelers », vente et achat de bijoux. Elle me parut aussi miteuse et délabrée que les autres commerces de ce bourg à l'agonie. Il n'y avait rien dans la vitrine poussiéreuse. La pancarte suspendue derrière la porte à une petite ventouse en plastique indiquait « Fermé ». Il y avait une sonnette. J'appuyai dessus. Pas de réponse. Je recommençais, en sentant le poids du sac sur mon dos. Je collais mon nez à la vitre, les mains en visière pour combattre le reflet. Je distinguais un tapis élimé et des présentoirs vides. Je commençais à croire que M. Bodich ou moi avions commis une erreur lorsqu'un petit homme coiffé d'une casquette en tweed, vêtu d'un gilet en laine et d'un pantalon ample, apparut dans l'allée centrale en boitillant. Il ressemblait au jardinier dans une série policière britannique. Il me dévisagea à travers la vitre et repartit, toujours en boitillant, pour appuyer sur un bouton installé près de la caisse enregistreuse à l'ancienne. La porte s'ouvrit dans un bourdonnement électrique. Je la poussai et pénétrai dans une odeur de poussière et de lent déclin.
« viens derrière !»
dit-il. Je m'arrêtai sur le seuil. « Vous êtes bien Monsieur Heinrich ?»«
Et qui veux-tu que je sois ?»
Je pourrais voir votre permis de conduire ?» Il fronça les sourcils avant d'éclater de rire.
« Le vieux m'a envoyé un garçon méfiant, à la bonne heure !»
Il sortit de sa poche arrière un portefeuille très fatigué qu'il ouvrit d'un mouvement du poignet pour me montrer son permis de conduire. Avant qu'il le referme avec le même geste, j'eus le temps de remarquer qu'il se prénommait Wilhelm.
« Satisfait ?»«
Oui, merci. »«
Viens derrière, Schnell !»
Je le suivis dans l'arrière-boutique, dont il ouvrit la porte grâce à un boîtier en prenant bien soin de se cacher pour taper le code. Cette pièce abritait tout ce qui n'était pas dans la boutique. Des étagères regorgeaient de montres, de médaillons, de broches, de bagues, de pendentifs et de chaînes. Des rubis et des émeraudes projetaient des éclats enflammés. Je remarquais une tiare surchargée de diamants. C'est des vrais ?
Ya, ya, c'est des vrais, mais tu n'es pas venu pour acheter. Tu es venu ici pour vendre. Tu as peut-être remarqué que je ne t'ai pas demandé ton permis de conduire.
Tant mieux parce que je n'en ai pas.
Je sais qui tu es. J'ai vu ta photo dans le journal.
Le Sun ?
USA Today. Tu es connu dans tout le pays. Charles Reed. Cette semaine, du moins. Tu as sauvé la vie à ce vieux Bowditch.
Je ne pris pas la peine de préciser que c'était la chienne. J'en avais marre de raconter cette histoire. Je voulais remplir ma mission et foutre le camp. Tous ces bijoux, tout cet or, me flanquaient un peu la frousse, surtout comparé au présentoir vide dans la boutique. Je commençais à regretter de ne pas avoir pris le revolver, car je n'avais plus l'impression d'être Jack et son haricot magique, plutôt Jim Hawkins dans l'île au trésor. Heinrich était courtois et inoffensif, mais peut-être que son complice, Long John Silver, se cachait quelque part. Ce n'était pas une idée totalement paranoïaque. Je me répétais que M. Bowditch traitait avec Heinrich depuis des années, mais de son propre aveu, jamais il n'avait conclu une affaire aussi importante.
Montre-moi ce que tu m'apportes.
Dans un roman d'aventure pour enfants, Heinrich aurait incarné l'image même de la cupidité, le type qui se frotte les mains, la bave aux lèvres. Mais Heinrich se comportait en professionnel, avec peut-être même une pointe d'ennui. Néanmoins, je me méfiais de ce numéro, je me méfiais de lui. Je posais le sac à dos sur le comptoir. Il y avait une balance.
Numérique, en effet.
Je soulevai le rabat et maintins le sac ouvert. Quand Heinrich jeta un coup d'œil à l'intérieur, je perçus un léger changement sur son visage. La bouche se crispa, les yeux s'écarquillèrent un bref instant.
« Mein Gott ! Tu te promenais avec ça sur ton vélo ?»
La balance était dotée d'une coupelle transparente suspendue à des chaînes. Heinrich y versa de petites poignées de pépites d'or jusqu'à ce que le cadran indique 1,5 kg. Il les mit de côté, dans un petit récipient en plastique, et renouvela l'opération. Quand la seconde fournée eut rejoint la première, il restait au fond du sac à dos, dans les plis de toile, une petite rivière d'or. M. Bowditch m'avait demandé d'avoir la main un peu lourde. J'avais obéi. Heinrich regarda à l'intérieur du sac.
« À vue d'œil, il reste dans les 100 grammes, »
dit-il.
« Si tu me les vends, je t'en donne $3,000 en liquide. » Bowditch n'a pas besoin de le savoir. Considère ça comme un pourboire.
J'y voyais plutôt un moyen de pression potentiel. Je le remerciais malgré tout et refermais le rabat du sac à dos. Vous avez un chèque pour moi, je crois ?
Oui.
Le chèque était plié dans la poche de son gilet de vieillard, émis par la PNC Bank de Chicago, succursale de Belmont Avenue. Il était libellé au nom de Howard Bowditch pour un montant de $74,000. Sur le talon, Heinrich avait noté « service personnel ». Tout m'avait l'air réglo, je glissais le chèque dans mon portefeuille et mon portefeuille dans ma poche avant gauche.
« Bowditch est un vieux bonhomme entêté qui refuse de vivre avec son temps »,
dit Heinrich.
« Autrefois, quand on négociait des sommes beaucoup moins importantes, très souvent je le payais en liquide. Une ou deux fois, je lui ai fait un chèque. Un jour, je lui ai demandé « Vous n'avez pas entendu parler des virements ?» Et tu sais ce qu'il m'a répondu ?
Je fis non de la tête, mais ce n'était pas difficile de deviner.
Et il m'a répondu : Non, je n'en ai pas entendu parler, je ne veux pas en entendre parler. Et aujourd'hui, pour la première fois, il m'envoie un Zwischengehen, un émissaire, parce qu'il a eu un accident. Jamais je n'aurais cru qu'il ferait suffisamment confiance à quelqu'un pour lui confier cette mission. Et pourtant, te voilà, un gamin sur une bicyclette.
Oui, et je m'en vais. Dis-je en marchant vers la porte qui donnait sur la boutique vide dont il allait peut-être ou peut-être pas garnir les présentoirs un peu plus tard. Je m'attendais à ce que cette porte soit verrouillée, mais ce n'était pas le cas. Je me sentis mieux dès que je retrouvais la lumière du jour. Mais l'odeur de vieille poussière était désagréable. On se serait cru dans une crypte.
« Et c'est ce qu'est un ordinateur, au moins ? »
demanda Heinrich en refermant derrière lui la porte de l'arrière-boutique.
« Je parie que non. »
Je n'avais aucune envie de me laisser entraîner dans une discussion sur ce terrain. Je répondis que j'avais été ravi de le rencontrer, ce qui n'était pas vrai. J'étais soulagé de voir qu'on ne m'avait pas volé mon vélo. En partant de chez moi ce matin-là, j'étais tellement préoccupé que j'avais oublié mon antivol. Heinrich me prit par le coude. En me retournant, je découvris finalement le Long John Silver en lui. Il ne manquait qu'un perroquet perché sur son épaule pour parachever le tableau. Silver affirmait que son perroquet avait vu autant d'atrocités que le diable lui-même. Je devinais que Wilhelm Heinrich n'était pas en reste à ce niveau-là, mais n'oubliez pas que j'avais 17 ans et que j'étais plongé jusqu'au cou dans des histoires qui m'échappaient, autrement dit, j'étais mort de trouille.
« Combien d'or il possède ?»
me demanda Heinrich tout bas, d'une voix gutturale. L'emploi de mots allemands ici et là m'était apparu comme une marque d'affectation, mais à cet instant, il ressemblait vraiment à un Allemand. Et un Allemand pas gentil.
« Dis-moi combien d'or il possède et d'où il vient. Tu n'auras pas à le regretter. »
« Il faut que je m'en aille. » Et je joignis le geste à la parole. Christopher Paulet était-il là, à m'observer pendant que je remontais sur mon vélo et repartais en emportant le surplus de pépites au fond de mon sac à dos? Je l'ignore, car j'étais trop occupé à regarder par-dessus mon épaule le visage grassouillet et pâle de Heinrich suspendu au-dessus de la pancarte fermée derrière la porte de sa boutique poussiéreuse. C'était peut-être un effet de mon imagination, sûrement, mais il me semblait apercevoir le rictus de la cupidité sur ses traits. En outre, je comprenais ce sentiment. Je me souvenais d'avoir plongé les mains dans le seau pour laisser couler les pépites entre mes doigts. Ce n'était pas juste de la cupidité. C'était la soif de l'or. Comme dans une histoire de pirate. 6. Cet après-midi-là, vers 16h, une camionnette portant sur le côté l'inscription « Arcadia Hospital, consultation externe » s'arrêta le long du trottoir. J'attendais dans l'allée avec radar tenu en laisse. Le portillon, débarrassé des plaques de rouille et huilé maintenant, était grand ouvert. Un aide-soignant descendit de la camionnette et alla ouvrir les portes arrière. Je vis Melissa Wilcox debout derrière le fauteuil roulant où était assis M. Boditch. Sa jambe emprisonnée dans le fixateur était tendue devant lui. La kinésithérapeute déverrouilla le fauteuil, le poussa vers l'avant et appuya sur un bouton avec le talon de la main. En voyant la plateforme électrique et le fauteuil roulant descendre lentement, je sentis mon ventre se nouer. J'avais pensé au téléphone, à l'urinal et même à la clochette. Le chèque de Heinrich était à l'abri dans mon portefeuille. Tout était prêt. Mais il n'y avait pas de rampe pour fauteuil roulant, ni devant ni derrière. Je me sentais idiot. Heureusement, ce sentiment ne dura pas car Radar était là pour me distraire. Dès qu'elle vit son maître, elle se précipita vers lui. Oublié l'arthrite dans les hanches, je parvins à bloquer la laisse avant que la plateforme lui écrase les pattes, mais la secousse se répercuta jusque dans mon bras. Ce n'étaient pas les grognements de molosses qui avaient tant effrayé Andy à l'époque, mais des cris si plaintifs, si humains, qu'ils me brisèrent le cœur. « Tu es revenu !» disaient ses aboiements. « Dieu soit loué ! Je croyais que tu étais parti pour toujours !» Monsieur Boditch lui tendit les bras et Radar se dressa, les pattes avant posées sur la jambe tendue de son maître. Celui-ci grimaça, puis sourit et prit la tête de sa chienne entre ses mains.
« Oui, ma fille !»
roucoula-t-il. J'avais du mal à croire qu'il était capable de produire un son pareil, et pourtant je l'entendais de mes propres oreilles, ce vieil homme ronchon roucoulait, et il avait les larmes aux yeux. Radar, elle, émettait des petits gémissements de bonheur et sa grosse queue battait l'air.
Oh « Oui, ma fille, tu m'as manqué, toi aussi. Allez, descends maintenant, tu me fais mal. »
Radar retomba sur ses quatre pattes et marcha à la hauteur du fauteuil que Melissa poussait dans l'allée, tant bien que mal.
« Il n'y a pas de rampe, » dis-je. « Désolé, désolé, mais je peux en construire une. Je regarderai sur Internet. On trouve tout sur Internet. » Je ne pouvais plus m'arrêter de parler. « Je crois que tout le reste est plus ou moins prêt. »
Monsieur Boditch m'interrompit.
« On engagera quelqu'un pour installer une rampe. Arrête de t'inquiéter. Tu n'es pas obligé de tout faire. Ce qu'il y a de bien quand on est un secrétaire particulier, c'est qu'on peut déléguer les tâches. Mais puis rien ne presse. Comme tu le sais, je ne sors pas souvent. Tu t'es occupé de notre petite affaire ?
Oui, ce matin.
Très bien.
Mélissa intervint, s'adressant à l'aide-soignant.
À vous deux, vous devriez pouvoir porter le fauteuil dans l'escalier, des costauds comme vous. Qu'en penses-tu, Herbie ?
Pas de problème, répondit celui-ci. Un fiston ?
Oui, bien sûr, répondis-je et je pris un côté du fauteuil roulant. Radar gravit les premières marches, s'arrêta lorsque ses pattes arrière la trahirent, mais elle parvint à réembrayer pour monter jusqu'en haut. Elle nous toisa en frappant la véranda avec sa queue.
Et il faudrait s'occuper de cette allée s'il doit l'utiliser avec son fauteuil, dit Mélissa. C'est pire que la route de terre au bord de laquelle j'ai grandi là-bas dans le Tennessee.
Prêt, champion ?
Me lança Herbie.
On hissa le fauteuil sur la véranda.
Je cherchais parmi les clés de M. Bodditch jusqu'à ce que je trouve celle qui ouvrait la porte d'entrée.
Hey ! Fit l'aide-soignant. J'ai pas vu ta photo dans le journal. Je soupirai.
Oui, possible. Avec radar. Devant la maison, près du portillon.
Non, non. L'année dernière. C'est toi qui as marqué le touchdown de la victoire du Turkey Bowl. 5 secondes avant la fin du temps réglementaire.
Il leva la main au-dessus de sa tête en brandissant un ballon imaginaire comme je le faisais sur la photo. Je n'aurais su dire pourquoi ça me faisait plaisir qu'il se souvienne de cette image et non de la plus récente. Dans le salon, j'attendis, plus nerveux que jamais, pendant que Mélissa Wilcox inspectait le canapé-lit.
« Très bien, »
dit-elle.
« Parfait. Un peu bas peut-être, mais on fait avec ce qu'on a. Il faudrait un traversin ou quelque chose dans le genre pour soutenir sa jambe. Qui a fait le lit ?»«
Moi, » dis-je, et son air surpris me fit plaisir lui aussi.
« Tu as lu la brochure que je t'ai donnée ?»«
Oui, j'ai acheté ce produit antibactérien pour les broches.
Une simple solution saline fera l'affaire. Ou de l'eau chaude avec du sel. Tu te sens prêt à le transférer ?»«
Oui !» fit M. Bodditch. « Peut-être que je pourrais participer à la conversation. Je suis là, je vous signale. »«
Oui, mais ce n'est pas à vous que je parle, »
répondit Mélissa avec un grand sourire.
« Je ne sais pas, » avouai-je.
« Monsieur Bodditch, » dit Mélissa, « c'est à vous que je m'adresse maintenant. Vous êtes d'accord pour que Charlie fasse un essai ?»
Le vieil homme se tourna vers Radar, assise le plus près de lui possible.
« Qu'est-ce que t'en dis, Fifi ? On fait confiance à ce gamin ?»
La chienne émit un aboiement.
Si Radar est d'accord, moi aussi. Ne me lâche pas, mon garçon. Cette jambe me fait dérouiller.
J'approchai son fauteuil roulant du canapé-lit, actionnai le frein et lui demandai s'il pouvait prendre appui sur sa jambe valide. Il se redressa à moitié, ce qui me permit de débloquer et d'abaisser le repose-jambe. Il poussa un grognement, mais parvint à parcourir la distance restante en chancelant un peu, mais droit.
« Tournez-vous pour placer vos fesses face au lit, mais n'essayez pas de vous asseoir. Attendez que je vous le dise. »
Mélissa hocha la tête d'un air approbateur. Monsieur Bodditch obéit. Je repoussai le fauteuil.
« Je ne peux pas rester longtemps debout sans les béquilles. »
La sueur perlait sur son front et ses joues. Je m'accroupis pour saisir le fixateur.
« Vous pouvez vous asseoir maintenant. »
Il ne s'assit pas, il se laissa tomber. En poussant un soupir de soulagement, il s'allongea, je déposai sa jambe cassée sur le lit, et voilà, j'avais réussi mon premier transfert. Je transpirais moins que M. Bodditch, mais je transpirais quand même, de nervosité. C'était autre chose que de renvoyer les balles d'un lanceur.
« Pas mal, » commenta Mélissa. « Pour le lever, il faudra que tu le prennes dans tes bras. Tu croises tes doigts dans le milieu de son dos. » Et tu le soulèves, serre-toi de ses aisselles.
Oui, pour le soutenir, dis-je. C'est marqué dans la brochure.
J'aime les garçons studieux. Assure-toi que ses béquilles sont toujours à portée de main, surtout s'il veut se lever. Eh bien, comment vous sentez-vous, monsieur Bodditch ?
Comme si j'avais enfilé un caleçon trop petit. J'ai l'heure de mes médocs.
Vous les avez pris avant de quitter l'hôpital. Il faut attendre 6 heures maintenant.
Assez loin. Juste un petit oxycodone pour m'aider à passer le cap.
Je n'en ai pas.
Elle s'adressa à moi.
Tu t'amélioreras à force. D'autant qu'il va se rétablir peu à peu et gagner en autonomie. Accompagne-moi dehors un instant.
Vous allez parler dans mon dos,
nous lança Bauditch.
En tout cas, il est hors de question que ce jeune homme m'administre des lavements.
Oh !
Fit Urbi. Penché en avant, les mains sur les genoux, il examinait le téléviseur.
C'est la plus vieille boîte à conneries que j'ai jamais vue.
Elle marche ?